Temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, le monde. Aujourd'hui, édition du 20 août 2014, en direct du Studio 13, ici à Washington. Bagassi Koura et Nathalie Barge. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Au sommaire ce soir, les États-Unis ont confirmé la mort du journaliste américain James Foley, décapité par les islamistes en Syrie.
Épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, couvre-feu au Libéria et mise en quarantaine de deux quartiers de Monrovia.
Nouvelle manifestation hier soir ici à Ferguson, aux États-Unis.
Proche-Orient, reprise des hostilités entre le Hamas et Israël.
Le Niger annonce la création de quatre nouvelles universités de bonnes intentions qui font des sceptiques.
Tant qu'on n'aura pas réglé ces différents problèmes au niveau des institutions qui existent déjà, eh bien la création des quatre universités va ressembler à un immeuble de paille qui ne pourra pas résister aux différentes intempéries académiques.
Hassan Arifa, de l'Union des scolaires du Niger.
Lancement de la campagne scolaire au Mali avec création d'espaces temporaires pour les écoliers de Gao et Tombouctou.
Des hangars qu'on va construire qui vont être d'une garantie d'une année. Et dans chacune des écoles, il est prévu au moins trois salles de classe avec les dimensions standards, c'est-à-dire les dimensions d'une classe normale.
Soumaïla Soumaré de l'ONG CRAD que nous entendrons tout à l'heure.
Et en fin d'émission, comme chaque jour, les sports, mais d'abord le journal.
Les États-Unis ont confirmé la mort du photojournaliste américain James Foley, qui a été décapité par les militants de l'État islamique en Syrie. Dans un discours ce mercredi, le président américain Barack Obama lui a rendu hommage. Des précisions avec Sarah Diaby.
Les autorités américaines disent avoir vérifié l'authenticité d'une vidéo postée par les militants de l'État islamique et montrant l'exécution de Foley. Dans une déclaration, le président américain Barack Obama a rendu hommage au journaliste de 40 ans enlevé en Syrie en 2012. Il a révélé avoir parlé avec la famille du défunt et dénoncé une exécution qui, a-t-il dit, choque la conscience du monde entier.
So ISIL speaks for no religion. Their victims are overwhelmingly Muslim.
L'État islamique ne parle au nom d'aucune religion. Ses victimes sont en majorité des musulmans et aucune religion ne dit de massacrer des innocents. Un Dieu juste n'acceptera en rien ce qu'ils ont fait hier et ce qu'ils font chaque jour. Dans la vidéo publiée sur YouTube et intitulée « Message de l'État islamique aux États-Unis d'Amérique », les militants islamistes demandent au président américain d'arrêter son intervention en Irak et menacent de tuer un autre journaliste présenté comme étant Stephen Stokel. Dans un message publié sur Facebook, la mère de Foley, Diane Foley, a rendu hommage à son fils, déclarant qu'il a consacré sa vie à essayer d'exposer la souffrance du peuple syrien au monde. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a de son côté condamné un crime abominable.
À Ferguson, aux États-Unis, ici, les manifestations se sont poursuivies la nuit dernière. 47 personnes ont été interpellées. Eric Holder, le ministre de la Justice, est arrivé sur place aujourd'hui sur demande du président Barack Obama. Il doit rencontrer les enquêteurs du FBI, la police fédérale et des responsables locaux. Des précisions avec vous, Nicolas Pinault.
Oui, le ministre américain de la Justice a promis que l'enquête serait complète, équitable et indépendante, mais a néanmoins prévenu que celle-ci prendrait du temps. En effet, une centaine de témoins pourraient être auditionnés dans cette affaire complexe où les zones d'ombre restent nombreuses. La venue d'Eric Holder coïncide aussi avec la réunion du grand jury du comté de Saint-Louis. Composé de citoyens, ce grand jury doit décider si une inculpation doit être prononcée contre le policier Darren Wilson qui a abattu Michael Brown. Aujourd'hui, les avocats de la victime ont annoncé que les funérailles du jeune homme seraient célébrées lundi prochain. Ces obsèques seront publiques et de nombreux militants des droits civiques pourraient faire le déplacement, comme Al Sharpton ou encore le révérend Jesse Jackson.
Au Proche-Orient, l'épouse et le fils du chef militaire du Hamas, Mohamed Deif, ont été tués lors d'un raid de l'aviation israélienne dans la bande de Gaza, selon le groupe islamiste. Une attaque qui intervient après un nouvel échec des pourparlers de paix entre les belligérants. Jacques Aristide.
L'État hébreu a ouvert les portes de l'enfer, a déclaré le Hamas ce mercredi après la tentative d'assassinat israélienne du puissant chef militaire du mouvement palestinien. Mais d'après un porte-parole du groupe, Mohamed Deif n'occupait pas la maison qui a été prise pour cible par l'aviation israélienne. Les corps de 3 membres de sa famille ont été retirés des décombres. Ce bombardement aérien marque la reprise des hostilités après une trêve de 10 jours dans la bande de Gaza. Depuis plus d'un mois, des négociateurs étaient réunis au Caire, la capitale égyptienne, pour tenter de mettre fin à la crise. Aucun accord n'a toutefois été trouvé sur les revendications des deux parties en guerre. Les Palestiniens réclamaient la fin du blocus israélien contre la bande de Gaza, tandis qu'Israël exigeait que le Hamas soit démilitarisé. Selon les autorités israéliennes, depuis la fin du cessez-le-feu mardi, les activistes palestiniens ont tiré plus de 130 roquettes en direction d'Israël, dont certaines ont été interceptées par le système de défense anti-aérienne Dôme de fer. L'aviation israélienne a, elle, procédé à plus de 90 frappes visant, dit-elle, des sites terroristes à Gaza. Au moins 19 personnes ont été tuées lors de ces opérations. D'après des sources médicales palestiniennes, aucune victime n'a été signalée dans le camp israélien.
Kiev dit avoir repris aux rebelles une ville clé dans l'est de l'Ukraine. Le porte-parole de la sécurité nationale ukrainienne, Andriy Lysenko, a déclaré que l'armée a finalement repris contrôle de Ilovaïsk après de violents combats avec les séparatistes pro-russes. Ilovaïsk est à 40 km de Doliensk et est considérée comme plateforme logistique pour les combattants rebelles en raison de ses grands axes de communication. L'armée ukrainienne dit entourer également la ville de Donetsk, autre bastion des rebelles, et poursuivre les combats aussi dans la province de Lugansk, près de la frontière avec la Russie. Selon les autorités locales, 34 civils et au moins 9 soldats ukrainiens ont été tués dans des combats au cours des 2 derniers jours.
Le procureur général de l'Afghanistan a ordonné à un journaliste du New York Times de quitter le pays après la publication d'un article du journal disant que d'importants représentants du gouvernement afghan menaçaient de s'emparer du pouvoir pour sortir de l'impasse de l'élection présidentielle. Dans un communiqué, le bureau du procureur général a déclaré que Matthew Rosenberg doit quitter le pays dans les 24 heures. Un porte-parole de la justice, Bazir Azizi, dit que l'article va à l'encontre des intérêts nationaux et de la sécurité du pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les pays africains sont en état d'alerte face au virus Ebola. Des vols vers les pays les plus affectés ont été suspendus. Pour sa part, le Libéria a placé en quarantaine 2 quartiers de la banlieue de Monrovia, sa capitale. Des détails avec Lola Akumachri.
Très tôt ce matin, des policiers et des soldats libériens ont encerclé les bidonvilles de West Point et de Dolotown, provoquant des heurts avec les habitants. La présidente Ellen Johnson Sirleaf, qui a pris cette mesure hier, a également décrété un couvre-feu sur l'ensemble du territoire libérien afin de contrer la propagation de l'épidémie. Le Nigeria a de son côté annoncé mardi le décès d'une 5e victime du virus Ebola. Les personnes décédées dans le pays ont été toutes en contact direct avec le patient libérien Patrick Sawyer, décédé le 25 juillet dernier. Face à cette situation, le Cameroun, où aucun cas du virus n'a été encore déclaré, a ordonné la fermeture de sa frontière avec le Nigeria. Par ailleurs, le Kenya a annoncé l'interdiction d'entrée sur son territoire à compter d'aujourd'hui aux voyageurs venant de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. La Banque africaine de développement a accordé une aide de 60 millions de dollars aux pays touchés par l'épidémie du virus Ebola.
En République centrafricaine, forte tension dans le 3e arrondissement de Bangui. De violents affrontements ont opposé des soldats européens à des hommes armés dans le secteur PK5. Les combats ont fait plusieurs victimes. Le point avec Félix Yepassi Zembrou.
Les affrontements ont éclaté au milieu de la nuit avec des tirs à l'arme légère et parfois lourde. Dans la matinée, plusieurs dizaines de musulmans ont marché avec le corps d'un homme tué dans les combats avant de l'exposer devant le bureau local de l'ONU. Quelques heures plus tard, les hostilités ont repris avec une forte intensité, obligeant plusieurs personnes à fuir leurs habitations. Dans un communiqué, la force européenne affirme avoir été prise à partie par des éléments armés à hauteur du pont Yakité et dit avoir riposté en toute légitime défense. Le bilan provisoire fait état d'un mort et 33 blessés, selon la Croix-Rouge, mais un porte-parole de la communauté musulmane parle, lui, de 4 morts. un chiffre qui pourrait être revu à la hausse. Antoine Mbao Bogo, président de la Croix-Rouge centrafricaine.
Il nous a été signalé qu'il y a quelqu'un qui a été abattu. En dehors de cela, peut-être qu'il y en a eu, mais nous n'avons pas eu accès à d'autres personnes qui sont décédées. Jusqu'à l'heure, nous avons évacué 33 blessés, dont une femme, deux enfants et 30 hommes. Le bilan est très lourd. Nous ne pouvons pas aussi confirmer le nombre de morts parce que nous n'avons pas eu accès.
Par ailleurs, la situation politique du pays demeure dans l'impasse. Toujours pas de nouveau gouvernement. La délégation conviée lundi à Brazzaville est rentrée hier soir à Bangui.
Et sachez aussi qu'un volontaire de la Croix-Rouge centrafricaine, Bienvenue Bandios, a été tué par balle alors qu'il évacuait des blessés dans le quartier PK5 de Bangui. Une information donnée par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge.
Environ 70 soldats nigériens ont refusé de participer à une opération contre le groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du pays. Ils exigent d'être équipés de meilleures armes. C'est ce qu'indique l'AFP, citant plusieurs de ces mutins. Les soldats ont reçu l'ordre mardi de quitter leur base de Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, épicentre de l'insurrection islamiste, pour se diriger vers la zone de Gouaza, près de la frontière camerounaise.
En République démocratique du Congo, le député de l'opposition Jean-Bertrand Ewanga, arrêté début août, notamment pour offense au chef de l'État, comparaîtra lundi devant la Cour suprême de justice de Kinshasa. Une annonce faite par un de ses avocats, cité par l'AFP. Le procès de M. Ewanga avait été suspendu le 5 août.
Et en Mauritanie, il y a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Yahya Ould Hademine, précédemment ministre de l'Équipement et des Transports. Il succède à Moulay Ould Mohamed Lagdaf, qui avait auparavant présenté sa démission, la démission de son gouvernement au chef de l'État lors d'une audience au palais présidentiel. Voilà, c'est donc tout pour le journal. Au micro, Nathalie Barge et Bagassi Kouraïsi à Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Sur la voie de l'Amérique.
Aux États-Unis, la répression des émeutes à Ferguson dans le Missouri après la mort d'un jeune homme tué par un policier a semblé disproportionnée aux yeux de la majorité des observateurs. La police a fait usage de véhicules blindés et de fusils d'assaut comme pour une opération militaire, une première aux États-Unis. Le ministère de la Défense, qui a fourni des équipements à la police, affirme avoir agi en toute légalité. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
Sommé de s'expliquer, le Pentagone évoque un programme mis en place pour disséminer des équipements militaires en excès aux administrations de police qui en font la demande, et cela en vertu d'une loi votée au Congrès. L'amiral John Kirby est le porte-parole du Pentagone.
We don't push equipment on anybody.
Nous n'obligeons personne à prendre ces équipements. C'est le surplus de nos dotations pour lesquelles le contribuable a déjà payé. Et il est mis à la disposition des départements de police s'ils le veulent et ils sont qualifiés pour les recevoir.
Le Pentagone affirme avoir remis aux policiers de la ville de Ferguson et du comté de Saint-Louis certaines armes de guerre pour Jason Fritz, un ancien officier de l'armée, aujourd'hui spécialisé dans les opérations internationales de police. Ce type d'armement est inadapté pour le maintien d'ordre. Jason Fritz qualifie d'irresponsable le programme du Pentagone.
C'est très dangereux et cela va à l'encontre des règles en la matière. Nous pensons qu'en plus de donner l'équipement, il devrait accorder ne serait-ce que quelques semaines de formation sur la façon d'utiliser ce matériel. C'est la moindre des choses et ça, ce n'est pas négociable. Vous devez associer à cette militarisation la formation inhérente au lieu de favoriser le bricolage.
Le Pentagone se défend de prescrire la façon dont les polices locales devraient utiliser les équipements qu'ils leur donnent. Et au-delà du cas de Ferguson, le ministère américain de la Défense évoque des succès ailleurs où l'approvisionnement des polices locales en matériel militaire a permis de sauver des vies et de protéger des civils. Le secrétaire à la Défense Chuck Hagel a commencé une évaluation interne du programme autorisé par le Congrès. Et pour sa part, William Clay, représentant du comté de Saint-Louis, envisage de rencontrer M. Hagel pour discuter des préoccupations sur l'utilisation de matériel militaire sans formation adéquate.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, le spectre du racisme refait surface aux États-Unis après la mort d'un jeune Africain-Américain tué par un policier blanc à Ferguson. Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Le Niger se dote de 4 nouvelles universités. Les députés ont adopté en début de semaine le projet de loi sur leur création, ce qui portera désormais à 8 le nombre d'universités dans le pays. Seulement beaucoup d'interrogations subsistent, notamment quant à une réelle fonctionnalité de ces nouvelles structures universitaires. De Niamey, la correspondance d'Abdoul Razak Idrissa.
C'est dans un souci de décongestionnement des 4 universités déjà existantes que le gouvernement a décidé d'ouvrir 4 autres. Ainsi, toutes les régions du pays auront leurs propres universités. Yahuza Sadissou, ministre commissaire du gouvernement au Parlement, après le vote des députés approuvant la création de ces nouvelles universités.
Ces universités vont permettre d'abord de décongestionner les différentes universités que nous avons, notamment l'université Abdou Momouni de Niamey, qui regroupe l'essentiel des étudiants de notre pays. Nous avons d'autres universités, notamment Maradi, Zinder et Tawa, qui également sont de plus en plus fréquentées par les étudiants. Aujourd'hui, avec la création de 4 nouvelles universités, j'en suis convaincu, c'est l'enseignement supérieur de notre pays qui y gagne. Et c'est le pays qui gagne.
Même si les autorités rassurent quant à une fonctionnalité effective de ces nouvelles universités, dans les milieux estudiantins, on est prudent. Arifa Hassan est membre du comité directeur de l'Union des scolaires du Niger.
La grande interrogation, c'est de savoir où est-ce qu'on va dénicher les enseignants qui vont encadrer les pauvres citoyens qui seront appelés à se loger dedans. Et pour se loger, d'abord, il faut qu'il y ait les infrastructures. Et les infrastructures, même à l'université de Niamey, celle d'Etawa, de Maradi et des Zinder, les infrastructures manquent. Il y a un manque assez important d'infrastructures, un manque de logements, un manque de salles de cours, un manque de laboratoires, un manque de moyens de travail. Et je dis que tant qu'on n'aura pas réglé ces différents problèmes au niveau des institutions qui existent déjà, eh bien la création des 4 universités va ressembler à un immeuble de paille qui ne pourra pas résister aux différentes intempéries académiques.
Jusqu'en 2008, le Niger ne comptait qu'une seule université basée à Niamey, la capitale, et dont la capacité d'accueil se réduisait chaque année avec un flux important de nouveaux bacheliers. Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Éducation toujours cette fois-ci au Mali. Au Mali où à l'occasion de la rentrée scolaire prévue en octobre, les acteurs donc de l'éducation lancent une campagne dans le Nord intitulée « Projet d'appui à l'amélioration de l'éducation dans la région de Gao ». Financé par des bailleurs internationaux, ce projet couvre les régions de Gao et de Tombouctou. Il vise entre autres à la création d'espaces temporaires au profit des élèves et des enseignants. Voici un reportage de notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
La cérémonie de lancement du projet de l'amélioration de l'éducation dans la région de Gao a vu la participation des autorités administratives, politiques, les responsables de l'éducation, les parents d'élèves et les partenaires de l'école. La crise malienne a sérieusement touché les écoles de la région. Le retour de nombreux déplacés exige alors la création d'espaces pour accueillir les apprenants pour la rentrée prochaine. Abdoulaye Alassane, directeur adjoint de l'Académie de Gao.
Donc on n'arrive pas à contenir tous les enfants dans les salles de classe. Les salles de classe n'étant pas réhabilité. Avec l'INSEE, nous avons trouvé l'initiative de faire justement des espaces temporaires d'apprentissage pour permettre à ces enfants-là d'avoir accès à l'école dans des conditions minimales d'apprentissage.
Pourquoi donc accompagner une telle initiative? Le représentant de l'UNICEF à Gao, Mohamedou Fall.
Ce projet rentre dans le cadre de cette campagne de retour à l'école. Comme vous le savez, après la crise, l'école a été le milieu qui a le plus souffert de cette crise en termes d'infrastructure, mais aussi en termes d'équipement et de kits. Mais il couvre aussi 96 abris temporaires à Gao et 188 abris temporaires à Tombouctou. Donc c'est un projet important.
Le projet de l'amélioration de l'éducation sera exécuté par 6 ONG nationales, dont 3 de Gao. Il s'agit des ONG ACAS, CRAD et Gardel. Il se déroulera sur 4 axes fondamentaux. Soumaïlou Soumaré, président de l'ONG CRAD pour la région de Gao.
Le premier axe, c'est vraiment la mise en place des espaces temporaires, des genres de hangars qu'on va construire qui vont être d'une garantie d'une une année. Et dans chacune des écoles, il est prévu au moins 3 salles de classe avec les dimensions standards, c'est-à-dire les dimensions d'une classe normale, 9 sur 7. L'autre axe sera la distribution des kits qui va être faite en faveur de toutes ces écoles-là retenues. Le troisième axe sera la formation.
Pour la directrice du Cap de Gao, Oulématou Meiga, bénéficiaire, la création de ces abris va soulager les élèves, les enseignants et les responsables de l'éducation.
C'est vraiment une épine qu'on m'enlève du pied parce qu'actuellement, les élèves sont tellement nombreux dans les classes qu'on ne sait même pas comment faire. On a fait la double vacation, la double division, mais ça n'a pas résolu le problème. Ça permettra de diviser une classe de 150 élèves en deux classes. C'est ça l'épine que l'UNICEF a enlevée du pied de l'éducation aujourd'hui.
Le projet de l'amélioration de l'éducation est financé par l'UNICEF et ses partenaires à hauteur de 335 501 376 de nos francs. Kao Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Direction Ouagadougou au Burkina Faso, où 30 volontaires du corps de la paix américain ont prêté serment hier à l'ambassade des États-Unis. Ils vont servir dans le domaine de l'éducation. Il y a déjà 80 volontaires sur le terrain au Burkina Faso qui s'activent aux côtés des populations, notamment dans la lutte contre l'analphabétisme et la protection contre les maladies. Au total, environ 2000 volontaires ont soutenu des communautés burkinabées, indique notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Comme pour rappeler aux nouveaux volontaires les idées qui ont prévalu à la création du corps de la paix, ils avaient en face et bien en vue un portrait du président John Kennedy. Et c'est donc fort des idées de John Kennedy que les nouveaux volontaires ont prêté serment pour se mettre au service de l'éducation au Burkina. Le directeur du corps de la paix, Kate Hackett, explique ce choix.
Tout commence avec l'éducation. On commence avec l'éducation préscolaire et après l'éducation formelle et même non formelle. C'est la base du développement. Si nous n'avons pas de système d'éducation, vraiment, il n'y aura pas de développement. Et les 30 volontaires, ça c'est, bon, c'est un geste qui j'espère que ça va vous convaincre qu'on est là pour collaborer avec le Burkina Faso et pour vous aider à se développer.
Avant d'en arriver là, les volontaires ont suivi une formation de 3 mois pour mieux s'intégrer aux communautés.
Je vivais avec une famille haute et ils m'ont vraiment aidé à m'intégrer dans la communauté. Quand je suis venue, les gens m'adressaient en morée, en des langues locales et petit à petit, j'ai commencé à apprendre la langue. Moi, je vais enseigner les mathématiques au collège, au Centre Nord.
La culture, c'est très différent, mais on a beaucoup aimé d'apprendre. Nos familles hautes aussi nous ont appris beaucoup de choses. Comment acheter les choses au marché. Nous, on n'a pas l'habitude de faire ça aux États-Unis. Aussi la nourriture. On a beaucoup aimé d'essayer toutes les nourritures africaines.
Le ministre burkinabé de l'alphabétisation a prodigué des conseils aux nouveaux volontaires. On écoute le ministre Djemdjoda Diko.
Nous demandons que, justement, de plus en plus, qu'on intègre l'école au milieu et que l'école ne soit plus un produit étranger au milieu, mais un produit du milieu. En plus, le corps de la paix s'intéresse à l'environnement. D'autres métiers.
Pour l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, c'est comme un rendez-vous du donner et du recevoir. On écoute l'ambassadeur Mushengi Tulinabo.
C'est une occasion très heureuse pour nous d'avoir nos 30 nouveaux volontaires qui vont être dans le domaine de l'éducation et qui vont augmenter l'effectif qui est déjà dans le pays, qui travaille dans 3 domaines. Il y a bien sûr la santé, l'éducation et le développement communautaire. Donc aujourd'hui, franchement, nous sommes très contents. Et surtout dans le domaine de l'éducation où nous avons besoin d'aide et bien sûr leur contribution est très bien appréciée, que ce soit du côté américain et que ce soit du côté burkinabé.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Alors, vous écoutez La Voix de l'Amérique, hein, c'est l'heure des sports dans le monde. Aujourd'hui, je reçois Félix Yepassis Zembrou. Bonsoir Félix.
Bonsoir Bagassi, bonsoir Nathalie.
Le Rwanda qui est disqualifié donc de la course pour la CAN 2015 par la CAF veut faire appel.
Oui, Bagassi, le Congo éliminé sur le terrain avait déposé une réserve après le match aller à l'encontre de l'attaquant rwandais d'origine congolaise Dadi Birori pour une question d'identité. Il avait été suspendu le 11 août par la CAF. Le Congo, entraîné par Claude Leroy et officiellement repêché, doit évoluer dans le groupe A avec l'Afrique du Sud, le Soudan et le Nigeria. Oui, Barassi, quels sont les derniers résultats en ce qui concerne la Ligue des Champions ce mercredi?
Oui, en Europe, donc, on joue la deuxième mi-temps. En ce moment, le Zénith Saint-Pétersbourg mène 1-0 devant le Standard de Liège. Bete Borisov mène également 1-0 devant Slovan Bratislava. Et AG Balborg 1-0 également face à Apoel Nicosie. Un but partout entre Maribor et Celtic Glasgow. 0-0 entre les Français de Lille et le FC Porto. Donc, on joue à la 48e minute.
Oui, ben, en ce qui concerne les transferts, Barassi, le gardien international brésilien Julio César a signé au Benfica Lisbonne pour 2 saisons. Le portier de 34 ans qui s'est notamment illustré au Mondial brésilien lors de la séance de tir au but face au Chili en 8e de finale, évoluait à Toronto depuis février 2014.
Et puis Félix, l'UEFA qui ouvre une enquête disciplinaire contre le président de la Fédération italienne de football pour propos racistes présumés.
Oui, son nom Carlo Tavecchio ou Tavecchio. Kyo, qui avait déclaré le 25 juillet dernier lors d'une réunion publique, Opti Pogba est arrivé ici et avant il mangeait des bananes. Aujourd'hui, il joue titulaire à la Lazio de Rome. Ses propos, qui semblaient viser le milieu de terrain français de la Juventus de Turin, Paul Pogba, avaient créé une vive polémique en Italie.
Et puis enfin, Félix, parlons d'Usain Bolt.
Oui, Usain Bolt, le sprinter jamaïcain, sextuple médaille d'or olympique, dont le retour à la compétition est prévu le 28 août à Zurich, après un problème à un pied, affirme être sûr de pouvoir mieux faire sur la piste. On lui souhaite donc bonne chance, Bolt.
Voilà, merci Félix. C'est tout donc pour le sport.
Dans la page musicale avec la star ougandaise que vous entendez, Eddie Kenzo, hein, qui était tout récemment en tournée aux États-Unis. Alors c'est son titre Sitialos et il me semble que Bagassi Koura, juste à ma gauche, est allé le voir en concert.
Oui.
Bagassi, n'est-ce pas?
Il a fait bouger le public, hein, comme à son habitude au centre-ville ici de Silver Spring, la ville qui est donc dans la banlieue ici de Washington, et il a vraiment fait vibrer le public.
Et ça vous a plu, Bagassi? Vous avez dansé?
Oui, ouais, c'est l'un de mes musiciens préférés à l'heure actuelle. Hein.
Allez, écoutons-le. Wamasembera, ulamu basova, jangu tetare, yansiri akuleka. Nekanzine, nenzina mu mama, ulamu walisana. Nekanzine, nenzina mu, ulamu wajisera, domu zikitamu sana. Nse sichalosi, sichalosi, nse sichalosi ndi boss, sichalosi. Dance, dance, abange, unovula mugumbi, zingugami, kali munde kenangi, kwenzi jukira muche mfuti, endoza tekubana, acholeka otada, nebakendi kakanga, itali musana, o mama ulalaye, oh agaliba, enjole, oh agaliba, enjole, atitoba kona chungamba, Jango mziki tugusambe, gambe toba kona chongamba, jangwe nutwe changi. Aye lele lele lele, aye lele 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 lele. Lekanzine, nenzina mu mama, unamu wajisera, ato mziki zuri sana. Lekanzine, nenzina mu, unamu wajisera, ato mziki jambu sana.
Voilà, c'était Eddie Kenzo qui nous chantait ici Sitialos. Ainsi donc s'achève notre édition. Merci de nous avoir suivis. La mise en onde était assurée par Lionel Gaïma. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Passez une excellente soirée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.